journal présenté par Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Olivia et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Bangkok à demander la démission du Premier ministre thaïlandais, à égratigner la royauté. Le mouvement pro-démocratie s'est donné le week-end pour monter en puissance, explication de Nabila Hamel. Donald Trump ambitionne de nommer sans délai un successeur à la juge démocrate Ruth Bader Ginsburg, décédée hier. Le candidat des Républicains doit faire avaliser son choix par le Sénat. La Cour suprême percute la campagne à 45 jours de la présidentielle. En France, la mobilisation des guides conférenciers exsangue après 6 mois de crise sanitaire. Reportage à Paris de Valentin Dunat. Et puis il était question à l'instant, Olivia, de l'alpinisme de l'âme d'Étienne Klein. Eh bien, le piolet d'or est remis aujourd'hui à l'alpiniste française Catherine Destivel pour l'ensemble d'une carrière audacieuse et élégante. Parce que l'armée est trop influente à ses yeux, parce que la royauté assise sur un tas d'or surplombe une société qui souffre de profondes inégalités. La jeunesse thaïlandaise, celle des villes avant tout, manifeste quasi quotidiennement depuis le début de l'été et ce week-end, elle compte bien gagner en puissance. Bonsoir Nabila Hamel.
Bonsoir.
Nabila, cette jeunesse, c'est véritablement le cœur d'un mouvement pro-démocratie pacifique.
Oui, ce sont surtout des jeunes qui sortent régulièrement dans les rues de Bangkok et sur les campus des universités. Ils étaient environ 15 000 ce samedi, une participation record, soit plus importante à chaque rendez-vous depuis les premiers rassemblements de cet été, se réjouit l'un des animateurs de cette contestation. En clair, la répression des animateurs du mouvement, arrestations, accusations de sédition, ne semble pas avoir d'effet sur leur détermination. Si cette mobilisation des jeunes étudiants urbains rappelle le mouvement pro-démocratie à Hong Kong, elle a comme principale revendication la dissolution du Parlement, composé en majorité de militaires, la démission du Premier ministre Prayut Chan-o-cha, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2014, puis légitimé depuis par des élections controversées, et puis la révision de la Constitution de 2017, jugée trop favorable à l'armée. Mais comme le déclarait un journaliste thaïlandais qui a passé 7 années en prison, certains de ces jeunes sont déterminés et vont plus loin. La nouvelle génération, dit-il, découvre la réalité et demande ouvertement des réformes de la monarchie. Cette question reste un tabou très fort dans ce pays où le crime de lèse-majesté est puni. Celui qui se fait appeler Rung, une des figures du mouvement, explique qu'il ne s'agit pas de demander la fin de la monarchie, mais de la moderniser, de l'adapter à la société thaïlandaise. Il est plus précisément demandé à l'actuel monarque monté sur le trône en 2016, à la mort de son père, le roi Bhumibol, la non-ingérence dans les affaires politiques, l'abrogation de la loi sur le crime de lèse-majesté et le retour des biens de la couronne dans le giron de l'État.
Merci à vous, Nabila Hamel. Au Liban, la proposition de la formation politique du président Michel Aoun, le parti chrétien maronite, formule un compromis visant à permettre la composition d'un gouvernement. Il s'agit de confier les ministères régaliens aux confessions minoritaires, druzes, arméniens, alaouites et minorités chrétiennes. Une révolution dans un pays où le pouvoir est traditionnellement partagé entre maronites, chiites et sunnites, les trois principales communautés. Sans surprise, quelques heures seulement après la disparition de Ruth Bader Ginsburg, éminente juge de la Cour suprême américaine de sensibilité démocrate, progressiste et féministe de la première heure, Donald Trump se dit, je cite, « dans l'obligation de lui trouver un successeur et sans délai ». Le président sortant, qui compte bien prendre ainsi de vitesse son adversaire, Joe Biden, doit cependant proposer le juge de son choix au vote du Sénat. Deux difficultés s'offrent à lui, s'exposer à une énième contradiction et à une issue au Sénat incertaine, comme l'explique à Christian Chesneau Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris-Assas et spécialiste des États-Unis.
Ça pose problème d'autant que les Républicains ont créé une jurisprudence, si on peut dire, puisque en 2016, ils se sont opposés à une nomination de Barack Obama. C'était quasiment un an avant l'élection, mais ils ont estimé qu'en année électorale, il n'était pas fair play de changer le juge et que c'était au prochain président choisi par le peuple de faire cette nomination, puisque ces juges sont nommés à vie. Cette fois-ci, on est à 45 jours de l'élection. C'est vrai que la nomination peut aller très vite. Le président peut nommer quelqu'un dès lundi, Et puis ensuite, il faut en moyenne 25 jours pour confirmer un juge à la Cour suprême. Tout ça, c'est s'il n'y a pas de grain de sable dans la machine. Or là, les problèmes politiques, ils vont forcément se dresser parce que la majorité de Trump est certes avérée au Sénat, mais elle n'est pas si forte que ça. Il a 3 sénateurs d'avance. Il lui faut donc être sûr que tout le monde va voter derrière lui, mais si 4 sénateurs lui font défaut dans son camp, alors il ne pourra nommer personne.
La justice éthiopienne lance des poursuites contre plusieurs leaders d'opposition pour terrorisme et incitation à la violence. Parmi les leaders mis en cause, Jawar Mohamed et Bekele Gerba, 2 figures du parti Congrès fédéral Oromo, arrêtés comme des milliers d'autres fin juin, lors des protestations et violences qui suivirent le meurtre du chanteur populaire Achalou Hundessa. Quelques 114 exilés embarqués sur 2 bateaux au large des côtes libyennes ont été secourus ce samedi par un bateau de l'ONG CI. Ils sont enfin traités comme des êtres humains, déclare Jan Riebeck, directeur des opérations de l'organisation allemande. Ils sont les voix du patrimoine. Les guides conférenciers se sont mobilisés aujourd'hui en cette journée du patrimoine et du matrimoine pour défendre leur métier, je cite, piétiné par le gouvernement. Plusieurs rassemblements aujourd'hui dans une 15aine de villes en France, Lyon, Strasbourg, Nice, Bastia, Toulouse, Marseille, Carcassonne. Ce matin à Paris, Valentin Dunat, ils étaient 200 devant la cathédrale Notre-Dame.
Ces guides conférenciers portaient un masque avec une croix bleue, façon de dire qu'ils sont désormais bâillonnés pour symboliser le drame que vit la profession en ce moment. Un violoniste accompagnait leur mobilisation. Jean-Manuel Trémont est guide conférencier depuis 30 ans.
À cause de la pandémie, il n'y a plus de touristes qui viennent à Paris. Comme il n'y a plus de touristes qui viennent à Paris, nous n'avons plus aucun revenu. Donc notre problème, c'est de tenir jusqu'à ce que le problème de la pandémie soit résolu et que nos revenus reviennent. Entre-temps, ce qu'il nous faut, c'est le bénéfice de la solidarité nationale. Alors nous sommes 2 types de travailleurs. Nous avons des auto-entrepreneurs, principalement des indépendants, qui bénéficient pour l'instant du fonds de solidarité, mais il faut que ce fonds de solidarité soit maintenu jusqu'au retour d'une situation sanitaire normale. Et puis nous avons des salariés. Ces salariés sont dans une situation plus grave, en particulier parce que leurs droits au chômage, pour la quasi-totalité d'entre eux, sont terminés.
C'est le cas de Sophie Bigogne, guide conférencière depuis 35 ans. Elle, comme des centaines d'autres salariés, sont en CDD et ont plusieurs employeurs, comme des intermittents, mais sans le statut.
Nous travaillons très exactement comme les intermittents du spectacle, mais nous n'avons pas les mêmes droits. Il y a une profonde injustice à ce niveau-là.
Quand vous dites « vous n'avez rien », ça veut dire que quelqu'un qui est guide conférencier salarié, en ce moment il ne travaille pas, il reçoit 0 euro ?
Oui, il reçoit 0 euro s'il n'a plus d'ACEDIC, ce qu'on appelle les indemnités Pôle emploi. Il va toucher le RSA. On en a pas mal qui sont désormais au RSA. On ne peut pas avoir abandonné à ce point-là une profession qui est au service du patrimoine. Et c'est pour ça aujourd'hui la symbolique. On est sinistré comme Notre-Dame. Et le patrimoine, c'est ce qui fait la richesse de la France. Mais qui va le présenter ? Qui va faire la publicité, la promotion de la France ? Nous, quand on faisait visiter Notre-Dame, on parlait de Chartres. On parlait de Reims, on parlait de Saint-Denis.
Ces salariés aimeraient donc récupérer le statut d'intermittent. Les entrepreneurs, eux, demandent au gouvernement de prolonger le fonds de solidarité l'année prochaine.
Valentin Dunat. L'éperon Walker au Grand Joras, la face nord du Cervin par la voix Bonatti est toujours en solo. Bandiagara au Mali, Devil's Tower aux États-Unis, quelques courses parmi tant d'autres pour survoler un parcours d'une extraordinaire variété jalonnée de répétitions ardues et d'ouvertures magnifiques. À l'heure de la glorification des courses en montagne chronométrées, le Piolet d'or, on ne peut plus prestigieuse récompense, va être remis aujourd'hui au Festival international de montagne de l'ADEC en Pologne à l'alpiniste française Catherine Destivel.
Je ne m'y attendais absolument pas. Ceux qui l'ont eu avant moi, je trouvais qu'ils avaient fait beaucoup, beaucoup plus de choses que moi. Et puis, bon, je suis aussi parmi les plus jeunes à le recevoir. Et du coup, j'étais assez surprise de recevoir. Je suis contente parce que finalement, ce que je vois, c'est qu'autour de moi, tout le monde est ravi. Et ça me plaît bien de continuer à inspirer les jeunes qui veulent en faire ou les femmes aussi qui veulent aller en montagne. Donc, c'est voilà, je suis contente. Alors, en fait, dans ma carrière, j'ai essayé de faire attention à faire des ascensions qui n'ont rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme, mais juste une alpiniste, un alpiniste. Et du coup, j'ai essayé de faire des premières tout court.
Quelles sont les ascensions qui vous reviennent peut-être particulièrement aujourd'hui
Alors,
à l'occasion ?
Qui m'a le plus marqué, c'était la face nord de l'Aiguër, où l'Aiguër, donc c'est la plus haute paroi d'Europe, qui fait 1700, un peu plus même, de mètres de dénivelé. Et qui a été le dernier problème des Alpes gravi en 1938. Et mon but, c'était de le faire toute seule, en solo, mais surtout sans repérage, contrairement à d'autres qui l'avaient fait avant. Donc voilà, moi, c'est la première fois que quelqu'un le tentait comme ça, et en hiver, en supplément, mais l'hiver, c'était surtout pour une question de sécurité. Je voulais pas me retrouver avec des chutes de pierre. Donc voilà, mais à chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas des premières féminines, mais juste des premières tout court.
Voilà des propos recueillis par Frédéric Barrère. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Languedoc. Une personne est portée disparue dans le Gard, placée en vigilance rouge par Météo France, qui met en garde contre une deuxième vague en cette fin de journée. Demain, temps très instable sur une grande partie du pays. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique, Jérémy Kaufmann.